Voici Mario Langlois.
Remax et le balado Bon Match vous présentent les commentaires hockey de Martin McGuire. Remax, on s'occupe de vous.
Bien le bonsoir, Martin.
Salut Mario.
Ça a fini tard, puis ça a commencé de bonne heure aujourd'hui avec le bilan de saison, mais ça a fini dans une formidable ambiance. Et j'ajoute aux manchettes que je viens d'évoquer le fait que, et je commençais ça avec un extrait sonore de Martin Saint-Louis, qui est derrière le banc pour aussi longtemps qu'on en voudra à Montréal.
Effectivement, je pense qu'il a lancé tout ça hier en avançant que lui désirait rester avec le Canadien. On s'est demandé si ça pouvait être le cas pendant que ces questions-là sont restées un petit peu dans les airs. Mais finalement, ça a été réglé, Mario. Tout le monde était prêt à en parler aujourd'hui. Alors, c'est un peu comme ça qu'on a entrepris le point de presse, alors que Kent Hughes a mentionné, techniquement, c'est ben simple, il restait une année au contrat de Martin Saint-Louis et le Canadien avait deux années d'options après la prochaine saison, la 24-25, et on a signifié à Martin qu'on désirait exercer ces deux années d'options. C'est donc dire que Martin Saint-Louis sera derrière le banc du Canadien pour les trois prochaines saisons, Mario, et ça correspond avec disons le moment où le fruit sera pas mal mûr, c'est-à-dire dans 3 ans. On espère qu'il puisse aller en série avant ça, là, on va en parler dans les prochains instants, mais je parle, tu sais, de l'apogée de l'équipe, là, quand on regarde le noyau de l'équipe, les joueurs, l'âge des joueurs,
un horizon raisonnable
important. Oui. Écoute, 3 ans, là, je pense qu'on va être pas mal là-dedans. Je suis allé voir Cole Caulfield, puis on a parlé de Martin Saint-Louis. Et tu sais que la relation a commencé entre les deux la première journée que Martin Saint-Louis a été l'entraîneur-chef du Canadien. On se souvient tous de ce match contre Washington il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Pause publicitaire après que Caulfield ait gaspillé une chance de compter. Il prend par le coup, il lui parle. La présence d'après, Caulfield a eu une vraie chance de compter. Puis par la suite, l'histoire, c'est la relation qu'on a bâtie entre les deux hommes, que Martin Saint-Louis a bâtie. Martin Saint-Louis voulait que Cole Caulfield soit en quelque sorte son premier projet avec le Canadien, et je pense que Cole Caulfield l'a toujours bien ressenti. Alors voici ce qu'il nous a dit sur la relation privilégiée qu'il a avec Martin Saint-Louis. Lorsque je l'ai questionné là-dessus, voici sa réponse.
Obviously, I think people know we're pretty close, and I look up to him. I think everybody does, but we had a bunch of talks this year just about life in general, kind of my game and where it needs to go and where I want it to go, and just kind of teaching each other. I think obviously you can look to him and just talking with him and speaking my mind too. I think it goes a long way, but obviously our relationship has gotten very, very intense throughout this past year, honestly, too, through all the ups and downs. And I'm very lucky to have a guy like that kind of on your side. And obviously, he's very, very hard on guys at times, but it's just the truth. And I think
he was hard on you.
Oh yeah, I think it's. I mean, you kind of want the truth, you want honesty, and I think that's how you're going to grow out of things and grow out of tough times.
Vraiment intéressant cet extrait-là, oui. Où on apprend beaucoup de choses aujourd'hui, finalement, sur comment ça se passe à l'intérieur. Puis c'est pas vrai qu'il flatte toujours dans le sens du poil, ces joueurs. Non. Cole dit que ça a été une année très intense, que oui, il n'entendait pas toujours les choses qu'il aurait peut-être souhaité entendre, mais lui aussi, il a prononcé un mot que Martin a répété encore à quelques reprises hier, la vérité. Donc, et la vérité, ben des fois, ça fait pas toujours plaisir à entendre. Fait que c'est intéressant, en gros, si je résume Cole Caulfield.
Non, puis évidemment, ben une bonne relation, Mario, ça se bâtit sur la vérité. Jeff Gorton, qu'on n'entend pas souvent dans les conférences de presse, était là aujourd'hui, puis a dit quelques trucs intéressants, notamment le fait que lui considère toujours que le coup dont il est le plus fier, c'est d'avoir réuni Kent Hughes et Martin Saint-Louis. Les avoir amenés ensemble chez le Canadien de Montréal. Gorton a parlé d'une bonne dynamique avec lui. Ils ont travaillé bien ensemble, on échange bien. Ils sont pas toujours d'accord, Mario, mais ça travaille bien ensemble. Jeff Gorton a parlé de Martin Saint-Louis comme étant un gars fait parfaitement pour le marché de Montréal.
I think Marty, the thing about him is every day he proves something else. You know, it's we don't even know who he is yet. It feels like there's still more. And that's hard to do in this business. And, I personally see the way he talks to the media. He treats everybody so well. He's very respectful. He carries himself really well in front of the team. There's a lot to him, and I think he takes pride in the fact that he's always getting better, and we see that. Kent and I talk about it all the time. He's you know, we've said it a number of times. He's very impressive, and he's the right person for what we're doing. He's the point person for our franchise, and we're very proud of that.
Des propos très élogieux. C'est l'élément pivot, ouais. Hein, l'élément clé de tout ce qu'on tente de faire au sein de cette franchise-là. Il dit que there's still more. En voulant dire, on découvre encore beaucoup de choses à propos de lui parce que il se découvre encore comme entraîneur à vouloir toujours s'améliorer. Quand il dit we don't know who he is, en voulant dire, il évolue progressivement. Et en fait, j'ai rarement entendu des propos d'un haut dirigeant aussi élogieux envers un entraîneur, bien que c'est sûr que quand c'est ton embauche, tu vas toujours le présenter positivement, mais on va loin dans la description. Donc, c'est un homme qui vraisemblablement fait l'unanimité, Martin.
Actuellement, oui, bien sûr, chez les joueurs et chez les dirigeants. Puis il l'a dit hier, il est heureux dans ce contexte-là. La place est parfaite pour lui. Puis je me réfère aux propos, je fais une petite parenthèse rapide. Quand Jacques Martin a pris la relève à Ottawa, lorsque nous sommes allés le rencontrer, quand il a suivi son retour, il a mentionné que c'était pour être un peu difficile pour lui parce que quand il avait pris son premier mandat avec les Sénateurs, le noyau, il l'avait élevé. C'est lui qui avait contribué à développer ces joueurs-là et qui les avait amenés ultimement jusqu'à une participation à la finale de la Coupe Stanley. Alors, le contexte à Montréal avec Martin Saint-Louis, il est un peu comme ça, parce que Martin Saint-Louis aura hérité d'une jeune équipe, avec quelques vétérans autour, oui, mais une jeune équipe qui, justement, contribuera à bâtir et à arriver, bien sûr, à maturité, on l'espère, en obtenant des résultats. Parlant de résultats,
on est moins gêné de parler de séries, même si
le mot est moins tabou maintenant, parce que on a eu l'impression au tournoi de golf l'automne dernier que c'est un mot qu'on voulait pas mentionner. Les dirigeants en ont parlé des séries, mais Kent Hughes est assez clair. Il pense que son club est capable de se battre pour une place en série au printemps de 2025, mais on gaspillera pas le futur de l'équipe pour prendre un raccourci puis arriver rapidement en série. Voici ce qu'il dit là-dessus.
Je crois pas que c'est un mot tabou premièrement. En gestion, je pense qu'on doit avoir une vue plus à long terme que les joueurs. Qu'est-ce qu'on va faire pour leur aider à se rendre dans les séries? À chaque été, on essaie d'améliorer notre équipe. J'ai dit d'essayer d'accélérer quand plus notre construction de l'équipe. S'il y a des moyens de le faire encore, des options de faire des échanges pour continuer à avancer notre objectif, on va tout chercher. Mais on ne fera pas à tout prix. On ne fera pas si ça nuire à notre objectif à long terme.
Quand il a parlé d'accélérer, Mario, il a expliqué un peu quelle serait peut-être la stratégie. Le Canadien s'en va au repêchage à Vegas avec une banque de 12 choix encore cette année. Je pense qu'ils les utiliseront pas tous, Mario. Puis même en première ronde, ils en ont deux. Puis je pense pas qu'ils vont repêcher deux joueurs en première ronde. Du moins, c'est un feeling très personnel. Alors, améliorer cette équipe-là, ça passe peut-être par un ou des choix parmi cette banque qu'ils ont déjà. Il y a un surplus de défenseurs. En fait, il y a des défenseurs à Montréal qui auront de la difficulté peut-être à s'intégrer, à se trouver une place. C'est peut-être une carte intéressante pour améliorer l'attaque. Parce qu'il a donné l'exemple Kent Hughes dans le point de presse. Il dit, si on amène un ailier dans le top 6, parce qu'on sait, Mario, que c'est un ailier que le Canadien a vraiment besoin à intégrer dans son top 6. On a parlé évidemment de Nick Suzuki, c'est le joueur de l'année chez le Canadien. Il est candidat au King Clancy, les 32 candidats de la Ligue nationale pour l'implication dans son milieu, mais il est aussi, il gagne la Coupe Monsoon pour la saison au complet. C'est le gars qui a transporté l'équipe sur ses épaules littéralement pendant les moments difficiles. Ça a vraiment tourné pour lui à partir des fêtes ou à peu près où on a vu un Nick Suzuki prendre vraiment une coche, comme on dit en bon québécois. Et selon le directeur général du Canadien, maintenant Suzuki, le capitaine de l'équipe, s'élève parmi l'élite de la Ligue.
Sur la glace, oui, on a vu une grande progression de Nick encore comme joueur. Puis je crois aussi dans la chambre. Mais je crois qu'avec un jeune joueur, je m'attends autant qu'il va continuer à progresser sur la glace, il va continuer à progresser puis d'être plus à l'aise dans son rôle comme capitaine d'une équipe. Puis je pense que c'est toujours normal de... je l'ai vu à Boston avec Patrice Bergeron. Il a continué à apprendre comment être le meilleur capitaine possible. Et puis je vois beaucoup de similarités dans les deux personnalités.
Faut dire Mario que Kent Hughes, il sait de quoi il parle quand il parle de Patrice Bergeron, parce que je rappelle à nos auditeurs que Kent était l'agent de Patrice Bergeron.
Ouais, Nick Suzuki à l'image de Caulfield puis de la majorité des joueurs, en tout cas ceux qui l'ont exprimé. Donc très content de savoir aussi que Martin Saint-Louis est à Montréal pour encore plusieurs années, en tout cas un minimum de trois. Je pense que les attentes, il y a des attentes à l'externe, mais je pense qu'elles sont pas nécessairement plus grandes que les attentes à l'interne, Martin, dont celles du capitaine.
Non, puis ça a été verbalisé clairement par plusieurs joueurs de l'équipe. On est prêt à prendre un peu plus d'attente. On est prêt à viser plus haut. On parle de série. On parle aussi de gérer ces attentes-là, Mario, dans un marché aussi chaud que celui du Canadien de Montréal. On va entendre, si vous le voulez bien, à ce sujet-là, Samuel Montembeault et celui dont on parle, le capitaine Nick Suzuki, tous les deux.
We're definitely not that far off from being a playoff team and, you know, competing for the Stanley Cup. So, you know, that's our goal. Definitely going into the next season is to, you know, make the playoffs. I think we got the right personalities in the group. You know, guys don't really look into, you know, expectations too much. You know, we got a lot of confident guys, you know, that like to be in the spotlight and, you know, like to play in the big markets. That's what we need as a group. Passionate franchise. We want to be in those moments in the playoffs, you know, winning a lot of games. And I think we have the group moving forward to do that. I like the expectations. I like to, you know, put pressure on myself to do well. So, you know, it's a perfect situation for me to, you know, bring out the best in me. On est rendu là, puis tous les gars, c'est ça qu'ils veulent aussi. Les gars, on veut gagner de plus en plus, on veut jouer des matchs importants rendus au mois de mars, au mois d'avril. Donc, je pense que les gars vont se préparer cet été pour arriver pour l'année prochaine, puis espérer avoir une bonne saison.
Alors, en traduction à Nick Suzuki, il a dit, ben moi, ça m'aide à m'améliorer puis à me pousser les attentes. Puis, je suis confortable avec ce qui se passe dans ce marché ici. C'est exigeant, c'est correct que ce soit comme ça. Suzuki, il dit, je pense qu'on a un bon groupe pour répondre à ces exigences-là, à ces attentes-là du public.
Et il reconnaît chez ses coéquipiers des gars qui ont le caractère aussi comme lui pour jouer, même si c'est des personnalités différentes, pour jouer dans un marché où il y a autant d'attention.
Oui, puis écoute, ça aussi, ça s'est quand même assez bien passé cette saison, Mario, chez le Canadien. On a brièvement entendu Samuel Montembeault, puis Samuel, lui, fait partie maintenant d'un tandem de gardiens qui est là pour longtemps. Si les dirigeants veulent les garder longtemps, c'est quand même deux gars qui sont encore assez jeunes. J'en ai parlé avec Samuel, lui a dit former un bon duo dynamique avec Caden Primeau. Les deux arrivent dans une ère, Mario, où les gardiens numéro un qui jouent 62-63 matchs, c'est fini. Alors, c'est vraiment en équipe qu'on va travailler là-dessus. Éric Raymond, à qui on a parlé aujourd'hui, l'entraîneur des gardiens, a parlé de ça également, de ce tandem-là, puis on va travailler avec les deux. Tu l'as dit en ouverture, Samuel a décidé de décliner poliment l'offre d'Équipe Canada pour s'entraîner, pour avoir un bon été d'entraînement et de repos aussi quand même, là, parce qu'ils font pas juste s'entraîner, ils se reposent, ils se préparent mentalement pour la prochaine saison. Il y en a un autre, Mario, qui a conclu une très belle année. C'est le défenseur Mike Matheson. On peut maintenant mettre son nom à côté notamment de Andrei Markov. C'est pas rien avec ce qu'il a accompli. Lui, on le sait, depuis qu'il est à Montréal, il joue à son mieux. Ça semble lui avoir très bien fait de déménager, de revenir chez lui à la maison. Matheson a dit, j'ai faim, je veux rentrer, je veux revenir, je suis content ici, puis il y a quelque chose de solide qu'on est en train de bâtir. Et lui, je lui demandais quelles étaient les caractéristiques qu'il remarque chez son équipe et qui lui donnent justement ces indications que l'équipe peut répondre à de plus grandes attentes pour les prochains mois. C'est intéressant ce qu'il dit là-dessus.
Je pense que je suis vraiment motivé à recommencer l'année prochaine. Je pense que c'est le fait qu'on n'arrête pas. On n'arrête pas de travailler. On travaille que ce soit le premier match de la saison, le match contre une équipe qu'on est supposé de ne pas avoir de chance contre. Tous les matchs à la fin d'année qu'on était déjà sortis des séries. Il y a eu des matchs où on perdait 6-2, puis on n'arrêtait pas. Puis je pense que ça, c'est une chose qui est très bonne à avoir pour une équipe.
Alors voilà, Mario, et cet élément-là, là, sur le travail acharné de cette équipe-là, ça a été dit par à peu près tous les joueurs qu'on a rencontrés dans le vestiaire aujourd'hui, y compris le vice-président de l'équipe, Jeff Gorton, qui a dit « Ce que j'aime de cette équipe-là, c'est qu'elle baisse pas les bras. » Il dit même que lorsqu'on a échangé Sean Monahan, je redoutais qu'il était pour avoir une petite baisse, mais non, tout le monde s'est relevé les manches, ils ont continué à travailler, même si, en échangeant un vétéran, on envoyait un message dans la chambre, mais les joueurs ont bien réagi. Et c'est ce que j'ai aimé de notre équipe cet hiver.
Ça met la table pour la discussion avec Danny, ton fidèle compagnon, notre oui. fidèle ami également aux amateurs de sport, et il est avec nous après la pause.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Toujours en compagnie de Martin McGuire. Accueillons maintenant Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Hey, juste avant de parler du Canadien, les gars, auriez-vous fait jouer Austin Matthews ce soir, dernier match de saison régulière pour les Leafs de Toronto? Parce que il veut marquer 70 buts. Hein? C'est pas arrivé souvent dans les 30 dernières années. L'aurais-tu fait jouer, Danny? Il y a déjà 7 tirs. Tout le monde y passe la rondelle dans le match ce soir.
Écoute, c'est le joueur qui décide. Parce que rendu là, c'est quand même une marque importante. Là. Je sais pas combien de fois, Martin, on a parlé de ça dans les reportages. Là. Écoute, c'est 30 ans là, quasiment que t'as pas eu un joueur qui a pas marqué 70 buts dans une saison. Tu
sais, 92-93, Témou, c'est l'année 76, Mogilny, 76.
Ça, 76, il y en a eu deux là cette année-là. Mais regarde, ces chiffres-là, c'est quand même historique. Tu peux pas enlever ça. Un joueur est très sensible à ces choses-là.
L'aurais-tu fait jouer, Martin?
Écoute, moi, si j'avais été l'entraîneur qui aurait dit à Austin Matthews, tu joueras pas ce soir, on va te reposer, j'aurais fait attention au mobilier de mon bureau. J'aurais bien fait attention. Je sais que Austin Matthews est un gars gentil et poli, là, mais...
Non, il faut que tu gardes vraiment. Tes joueurs heureux. Il n'y a aucun doute. Oui. Je regarde les Islanders, puis la plupart de leurs éléments principaux sont en uniforme ce soir. Je reviens au Canadien. Danny, on a mis la table avec Martin. Oui. Quel est l'élément pour toi dominant de la conclusion de cette saison où on sent que tout le monde regarde vraiment vers septembre, vers l'avant?
Ben écoute, c'est assez clair là que l'équipe a passé d'une équipe très très ordinaire à une équipe compétitive. Et même si les chiffres sont pas là au niveau du classement, écoute bien ça. Moi, cette année, le Canadien finit la saison à 5 contre 5. À moins 6. 161 buts pour, 167 buts contre. Bon, les gens disent, ben, mais c'est quoi le rapport? Non, mais c'est parce que cette année, le Canadien a joué des matchs contre des équipes qui étaient beaucoup mieux classées qu'eux, mais qui n'avaient pas une aussi bonne structure de jeu. L'an passé, à titre d'exemple, le Canadien a fini 162 buts pour, 201 buts contre, c'est moins 39. C'est une amélioration de 34. Entre les buts pour et les buts contre accordés. Ça veut dire que les gardiens de but ont été très bons. Ça veut dire que le jeu défensif, malgré une défensive très jeune, s'est resserré. Malgré les blessures, l'équipe a réussi à garder des matchs très serrés. Et pour moi, ça, c'est un indicateur que l'équipe s'en va dans la bonne direction.
Moins de blessures également, puis on espère qu'il y en aura moins. Il y en a eu beaucoup quand même par des joueurs importants, dont Kirby Dach, dont on a beaucoup parlé cette année. Et Martin?
Ben, il y en a été question un petit peu brièvement avec Kent Hughes, mais le sujet a été moins prédominant cette année, vraiment. Comme tu le dis, Mario. Mais Kent Hughes a dit quand même, tu sais, il dit, dans les prochaines heures, on va rencontrer notre équipe médicale, puis on va débriefer sur tout ça. On va tout analyser, ce qui s'est fait comme traitement, les blessures et tout. Mais Mario, tu sais, vraiment, les blessures de Raphaël Harvey-Pinard, de Kirby Dach, sais, c'est pas des blessures de joueurs mal soignés ou envoyés sur la glace trop vite. En tout cas, c'est la conclusion que faisaient les dirigeants de l'équipe devant nous aujourd'hui. Disons que c'est moins problématique que l'année passée.
Je juste peut-être pour compléter complément d'information. L'année passée, il y a un seul joueur qui a eu une saison complète, c'est Nick Suzuki.
Ouais.
Et cette année, si on exclut les matchs de suspension, je pense qu'on est à 7 joueurs qui ont une saison complète.
Ben, Gallagher aurait eu une saison complète, Mario et Danny, hein, s'il n'avait pas eu sa suspension de 5 matchs.
C'est ça que je dis, là. Les joueurs qui ont eu les suspensions, si on les enlève, c'est des saisons complètes, là. C'est, fait qu'il n'y a pas eu, il n'a pas été mis à l'écart à cause d'une blessure. Fait que c'est quand même pas mal, là. Tu sais, il y a une grande différence entre les deux saisons. Moi, je pense que ça aussi, c'est un élément intéressant, mais
quand tu parles des joueurs clés... La saison en deux aussi, la saison actuelle, Danny, pas en termes de victoires, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de victoires dans la dernière tranche du calendrier, on va l'admettre, mais il reste qu'il y a eu beaucoup de matchs serrés, beaucoup de matchs en prolongation dans la dernière séquence. Et ce que tu nous as révélé à travers les chiffres que tu as analysés, tu considères-tu que c'est une tendance qui s'est accentuée plus on avançait dans le calendrier en dépit du manque de victoires?
Tu parles de tendance
La progression.
Il y a vraiment eu un resserrement, puis moi, à un moment donné, je sais pas, peut-être Martin, t'as une meilleure mémoire que moi pour ça, là, mais à un moment donné, on disait, j'ai entendu le coach dire, la priorité, c'est le jeu défensif. Il faut qu'on soit meilleur. Puis là, hier, il a parlé de l'échec avant, mais moi, je peux vous dire que la défensive de zone, ils en ont parlé beaucoup aussi, là, mais il n'en a pas fait état hier, mais écoute, ça a été un sujet de discussion très animé dans le groupe d'entraîneurs, parce qu'à un moment donné, il faut que tu trouves des solutions là, quand ça se met à tourbillonner dans ta zone, puis tout ça. Mais le résultat final, c'est que, je reviens là-dessus, pour moi, c'est incroyable la différence sur l'ensemble de l'œuvre. Parce que je peux regarder les buts donnés, puis les buts accordés, puis les buts marqués. Si tu décortiques pas, ça se peut que tu manques des éléments. Parce que je trouve que, bon, le désavantage numérique, cette année, ça n'a pas été ça. Il y a du travail à faire là. Mais à 5 contre 5, les buts accordés, vraiment, là, les gars, moi, je trouve que ça, c'était très, très bon.
Quand ils sont partis dans l'Ouest canadien, messieurs, il y a eu la performance de Vancouver, disons que ça a été ordinaire. Tu sais, disons que le Canadien aurait peut-être même pu mieux compétitionner contre Vancouver. Mais ils ont offert un très bon match contre les Flames de Calgary. Ils ont tenu vraiment tête aux Oilers d'Edmonton, là, puis solide
en prolongation ce soir-là.
Exactement, là, tu sais, puis ils se sont fait voler, on s'en souvient, de la fameuse pénalité que Armia a eue, puis qui méritait pas pantoute, puis que c'est peut-être l'autre qui aurait dû avoir une pénalité, Evander Kane. Il s'est passé quelque chose dans ce long voyage-là. Et ils sont allés au Colorado, ils se rebattent encore. Ma grand-mère disait comme des diables dans l'eau bénite, là. Puis ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils surprennent l'avalanche qui avait même pas vu venir ça pantoute au début de match. Je pense qu'il avait pris le Canadien de haut un peu, là, d'ailleurs. Vraiment, ce voyage-là a été un tournant. Puis on dirait qu'après ça, là, on les a vus compétitionner vraiment. Puis on a vu un changement. Tu sais, c'était plus l'équipe qui était prise dans sa zone tout le temps, comme Danny disait, puis le gardien de but qui avait l'air essoufflé au bout d'une demi-période. On a vu quelque chose, là.
Ouais, très certainement. Ça sera de l'aveu même de Kent Hughes en réponse à une question aujourd'hui. Son été le plus important. Parce que là, le plus difficile commence. On entre dans une autre phase, et ça sera le plus important en attendant l'été suivant. Autrement dit, tous les prochains étés seront pas mal importants. Danny, qu'est-ce que tu vois comme, si tu avais établi deux ou trois priorités ou deux, trois choses que tu devines être à l'agenda de Kent Hughes pour livrer une équipe à Martin Saint-Louis qui va être en mesure de répondre aux attentes qui seront nécessairement plus grandes?
Ben écoute, la première affaire, là, c'est que bon, je reviens toujours sur mes... tu sais, je décortiquais un petit peu les chiffres, puis je me dis, l'enjeu du Canadien, c'est pas défensif, c'est offensif. La première ligne, cette année, a marqué 81 buts, OK? Puis là, je vous pose la question, parce que c'est, dans le fond, pour en discuter, là, est-ce que le premier trio du Canadien...
Oui.
...peut marquer 90 plus l'an prochain? On est à 81 cette année.
Penses-tu, Martin, que ça va rester écrit dans le ciel?
C'est parce qu'en première moitié de saison, ça a été pas mal tranquille. Alors, s'il y avait un rythme semblable, puis que les trois membres du trio subissaient pas de blessures, puis trop de baisse de régime, ils peuvent faire un peu plus. Parce que notre ami Slaff, là, avant Noël, il n'y avait pas grand-chose.
Non.
Alors, je pense qu'ils peuvent faire un peu plus, mais ça prendrait plus des autres aussi. Là.
Mais moi, ouais, je pense, pour répondre à ta question précisément sur le premier trio, tout simplement, oui, ils peuvent faire plus, parce qu'ils vont commencer là où ça a commencé à lever là, quelque part en décembre. Là, ils vont commencer de même dès le match 1 de la saison. Alors, la réponse pour moi est oui.
Oui. Puis moi je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que tu sais dans la zone de 90-95 buts, là, c'est réaliste. Ça veut dire que Cole en marquerait une trentaine, mettons 35 à peu près, et que Slaff en ferait 25. Fait qu'on n'est pas trop loin de l'objectif. Maintenant, c'est plus, moi, le deuxième et troisième trio où on est dans une espèce de zone inconnue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de joueur de centre établi. On a Kirby Dach qui a pas joué sur deux ans. Fait que on peut quand même pas dire, ah, Kirby Dach, c'est sûr, c'est 60 points l'an prochain.
Voyons. Non.
Ce serait pas réaliste de parler comme ça, mais le potentiel est là, c'est sûr. Et Joshua Roy, ah, c'est sûr, Joshua Roy va faire 20 buts. Et le potentiel est là. Est-ce qu'il va le faire? On ne sait pas. Est-ce qu'Anderson va retrouver sa touche? Il a fait 9 buts cette année. Bon, ça, c'est là aussi. Nook, maintenant, est-ce qu'il joue au centre ou à l'aile? Gallagher, est-ce qu'il est capable de revenir dans la zone de 20-25 buts? Est-ce qu'Armia va nous donner quelque chose l'an prochain? Mais le net-net, il est là. C'est que le Canadien a fait des progrès énormes en défensive, mais vraiment à court en attaque.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Vous entrez maintenant dans la Poche Bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Ford, construit avec fierté.
Avec Maxime et Guillaume, au lendemain du dernier match de la saison régulière des Canadiens. Salut les gars, c'est fini.
Salut Mario.
Ah, c'est fini, mais les séries vont commencer. Avez-vous aimé de la manière dont ça a fini hier au Centre Bell?
Ben oui, moi j'étais là, Mario, puis j'ai adoré l'ambiance. Tu sais, quand lorsque Lane Hudson touchait à la rondelle, on a senti une certaine passion, puis on a senti beaucoup d'espoir. Tu sais, on le sait, là, on a parlé des mêmes jeunes toute l'année, mais quand tu regardes Hudson, tu regardes Mayu, tu te dis, ok, c'est sérieux. Tu sais, on a eu beaucoup de jeunes les dernières années, puis on espérait que peut-être qu'ils allaient dominer, performer. Là, je pense que ce qu'on nous a annoncé, ben c'est en train d'arriver pour vrai.
Moi, je suis content, Mario, parce qu'on voulait jusqu'à la fin de saison que les Canadiens se battent dans des matchs qui valaient dire quelque chose. Puis on
pour
était éliminés, mais on a affronté Détroit dans un mon langage, mais des do or die, là. C'était des matchs de séries éliminatoires pour Détroit qui était une bonne équipe. Puis on a offert deux bonnes performances de même avec un jeune qu'on a rentré, deux jeunes hier dans l'alignement. Moi, je trouve vraiment que c'était du positif qui s'est passé. Puis terminer ça en tir de barrage comme ça, c'était un beau spectacle pour les partisans qui ont été présents toute l'année.
Je t'ai détaché des résultats, mais j'ai été surpris de la quantité de courriels puis de messages textes que j'ai reçus de gens qui là disaient que le Canadien c'était des losers puis qu'il développait une culture de perdant parce qu'il était pas capable de préserver une avance dans les deux derniers matchs contre Détroit. Moi, j'avoue que ça m'a pas fait vraiment un pli là parce que le show était bon, mais vous répondez quoi à ces gens-là? Aidez-moi à répondre à ces gens-là.
Ben, je vois ma réponse, c'est est-ce que vous aimez mieux lorsqu'on a l'avance d'un but, qu'on fasse jouer Gallagher avec Armia et puis Suzuki, puis qu'on mette Madison puis Savard au lieu de faire jouer les jeunes?
Répète ça, Max.
J'ai ma réponse, c'est en fin de match, dans les cinq dernières minutes, lorsqu'on a l'avance par un but, aimez-vous mieux qu'on fasse jouer nos vétérans, qu'on fasse jouer Gallagher à l'aile avec Armia puis Suzuki, puis qu'on laisse Slafkovský, Caulfield sur le banc pour pas prendre de risques, puis qu'en défensive, on mette Savard puis Kovacevic, par exemple, pour sortir la rondelle,
mais
au lieu de faire jouer Hudson puis Mayu.
Mais hier,
moi, je pense pas.
T'as vu que, tu sais, je veux pas porter ombrage à la belle année, belle saison de David Savard, mais hier, là, Mayu était sa glace dans la dernière minute de jeu. Puis à un moment donné, on apporte un changement et c'est David Savard qui va finir la présence. Puis c'est son dégagement qui coûte la dernière mise en jeu, qui coûte le but égalisateur.
Ouais, mais tu sais, moi, ça, Mario, j'ai aucun problème avec ça. Quand tu sens, puis je suis certain qu'il a essayé de faire un flip, qu'il tombait en zone neutre, puis qu'il allait rouler jusqu'au. Tu sais, ça arrive, c'est, ça va vite, puis t'as de la pression. Puis même, moi, je suis sûr qu'un filet désert, c'est-tu quoi? On l'essaye, puis si ça marche pas, on se repose, puis au final, là, tu gagnes une mise en jeu, puis il reste 7 secondes au match, là. Et oui, David Savard a fait le icing, mais au final, il reste 7 secondes. C'est la job du Canadien de fermer les livres. Là. Tombe sa rondelle, mais là, dans le
coin... C'est la job fermé, à Armia, je pense, de te bloquer.
Exact. T'sais, fait qu'au final, t'sais, il voulait pas l'essayer. Ça a fait ça de même. Mais moi, j'ai pas de trouble avec ça. Puis pour les gens qui disent que c'est des losers, ça fait 2 mois qu'on sait à peu près qu'ils sont éliminés. Puis ça aurait
pas été bien pire. Ben oui.
Ça aurait été bien pire qu'est-ce qu'on a vu. On a eu des bons spectacles. Une équipe qui s'est donnée, des jeunes affamés. On a vu une fin de saison qui donne de l'espoir pour un Slavkovski, qui donne de l'espoir pour un Caulfield, qu'on a revu l'ancien Cole Caulfield qu'on avait, qu'on aimait tant. Fait que moi, je trouve que la fin de saison a été extrêmement positive. Puis l'année prochaine, Si on se parle l'année prochaine dans la même chaise qui sont dans les 5, 6, 7 derniers de la Ligue, là, je vais avoir un problème. Puis là, il y aura une évaluation haute à faire. Mais en ce moment, moi, je suis confortable dans la situation qu'on est.
Fait que là, on est ailleurs. Là. Tout le monde semble sur la même page. Même, je pense, les joueurs puis l'état-major, là, peu importe la manière dont on le verbalise, je pense qu'on voit tous cette équipe-là, autant à l'interne qu'à l'externe, en principe, en théorie. Il y a toujours des imprévus, là, mais aboutir quelque part l'an prochain. Là. Eux autres, leur expression, la ligne du parti, c'est être dans le mix, là. Mais on s'entend là-dessus.
Ben moi Mario, j'ai hâte qu'on... Moi, ce que je veux l'année prochaine, c'est commencer à évaluer les performances d'équipe. Cette année, quand on parle de positif pour le Canadien, c'est Montembeau, c'est les jeunes, c'est Slavka. On parle, tu sais, c'est très, très rare qu'on va parler de quelque chose qui était vraiment positif. Tu sais, le jeu défensif, ça a été plus difficile. J'ai hâte que l'année prochaine, on puisse tomber en concept vraiment d'équipe. Quelle amélioration Martin Saint-Louis va faire durant l'été, tu sais, son système de jeu défensif a été beaucoup critiqué tout au long de la saison. Quel ajustement qu'il va apporter comme entraîneur durant l'été pour amener son équipe à l'autre niveau? Au niveau collectif, on nous a parlé de, bon, même plus que les individus sont bons, plus que le collectif va être bon. Là, on est rendu au stade qu'il faut voir des résultats au niveau collectif, au niveau de l'équipe l'an prochain.
Votre chose, ben, je pense Max, que... Ouais.
Ben pour accomplir ça va prendre un peu plus de profondeur. Par contre là, tu sais, je comprends, j'ai bien aimé aujourd'hui qu'on a pointé le fait que on avait des lacunes physiquement, tu sais, on veut peut-être ajouter du poids, on a des lacunes côté talent. Puis ça, peu importe la structure, si t'as pas des gars talentueux, c'est difficile d'avoir un plan de match puis d'avoir du succès dans ce plan de match là si c'est pas des joueurs qui sont capables de l'effectuer. Tu sais, je suis d'accord avec Guillaume là, 100%. L'an prochain, c'est peut-être la première année où il y a une certaine pression sur les entraîneur parce que on va devoir faire des ajustements puis on veut compétitionner à un autre niveau l'an prochain, mais si on change pas l'alignement, par contre, peu importe le système de jeu, je pense pas qu'on a les gars de talent qui sont capables de faire ça naturellement puis que c'est pas forcé, tu sais. Donc j'ai aimé le fait qu'on a compris que peut-être qu'on perdait beaucoup de bagarres un contre un, que des fois c'était une question de positionnement. Puis ça, ben si tu regardes le jeu de Slavkovski par exemple, son succès est là parce qu'il est capable de se positionner parce qu'il est fort physiquement.
Ouais. Les gars, je vais revenir ne serait-ce qu'un instant sur le match d'hier. Ça vous dit quoi d'entendre le niveau de décibels atteindre, ma foi, je sais même pas c'est quoi le niveau qu'on atteint, là, mais c'est fracassant, c'est très, très fort, c'est loud, si vous me passez l'expression, quand un gars comme Lane Hutson est délégué en tir de barrage, ou même quand il avait la rondelle par moment. Qu'est-ce que ça vous dit d'entendre autant d'enthousiasme des partisans dans le Centre Bell?
Moi, je trouve ça beau. Puis je dis mission accomplie de la part des dirigeants du Canadien, parce qu'on a vraiment réussi à vendre un plan en montrant des résultats. Tu sais, quand même, oublions les victoires, les séries, là. Tous les jeunes qu'on nous a vendus ont progressé cette année. Toutes les nouvelles acquisitions de Kent Hughes ont eu un impact, que ce soit Dak, Newhook, tous ces joueurs-là ont fait quelque chose de spécial, même Matheson qu'on peut mettre dans ce mix-là, donc... On croit, je pense que c'est un lien de confiance en ce moment entre les partisans puis les dirigeants qui font que, OK, ils nous ont vendu la reconstruction, mais on voit une progression puis on va continuer d'acheter le plan.
Mais c'est quand la dernière fois, Mario, qu'on a vu un défenseur, tu sais, puis on s'emballe vite, là, à Montréal.
Piqué.
C'est-tu quoi? Tant mieux, là. Ouais, mais Piqué faisait des spinoramas puis tout le monde était, tout le monde attendait à la ligne bleue. Moi, je trouve que des fois, ça nuisait à certains aspects puis je suis d'accord.
Mais ça excitait les partisans.
Au niveau électrisant, ça l'excitait.
C'est spectaculaire.
Mais la mobilité qu'on voit depuis deux matchs, là, c'est dans la classe de Hughes, c'est dans la classe de Makar, là. Tu sais, c'est exceptionnel ce kid-là. Tu sais, pense-y, tu rentres dans la Ligue nationale fin de saison.
t'es pas stressé, pas nerveux, pas de rien, puis let's go, des un contre un, je les déjoue avec mes jeux de pied, puis moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas eu un joueur qui m'a levé de mon banc, que j'ai fait, OK, on a vraiment, tu sais, Caulfield est bon, Suzuki est bon, mais quelque chose de même, là, il est comme un quatrième attaquant. Puis il a même pas commencé à prendre confiance puis à s'installer, là. C'est comme un quatrième attaquant dans le jeu, là. Moi, je suis vraiment, vraiment excité de ce que j'ai vu dans les deux derniers matchs.
Ah, il est en mode attaque à chaque fraction de seconde dans sa tête. Je veux dire, il y a de l'énergie, il patine ses deux bords. Et aux gens qui me posaient la question, même si l'échantillon est très, très court, où va-t-il jouer l'an prochain? Il va jouer dans la Ligue nationale.
D'accord. Ben oui, surtout avec un argument comme il patine des deux bords.
Tu dis qu'il patine des deux bords, mais défensivement. Non, mais je veux dire, il s'investit. Tu vois qu'il est rapide. Il se donne une grosse marge de manœuvre. Puis,
ben oui,
non, mais c'est clair. Ben oui. Puis tu sais, quand tu regardes des comparables, Jordan Harris n'a même pas joué dans la Ligue américaine. Il est quatre fois meilleur que Jordan Harris, tu sais.
Ben, je vais comparer la situation un peu avec Slafkovski. Slafkovski, s'il allait dans la Ligue américaine, je trouve que ça aurait pas été bon pour sa progression parce qu'il aurait juste tassé les joueurs, il était fort physiquement, donc il aurait pas appris, tu sais, comme la première année, on se rappellera, il se faisait frapper, tu sais, il tombait souvent. Il fallait qu'il joue avec les hommes de la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est pareil pour Hudson. Tu sais, les feintes qu'Hudson faisait, collégial ou NCAA puis tout ça, ça va fonctionner à Laval facilement. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire contre les grands joueurs de la Ligue nationale de hockey? Je pense que c'est là qu'il doit apprendre. Puis on s'entend, là, Mario, là, c'est juste deux matchs, mais ça va pas l'air trop compliqué. Puis c'était contre une équipe qui était vraiment en mode série, comme Guillaume le disait.
Puis tu sais, Makar, quand on l'a mis dans le jeu, là, on s'est pas posé de questions s'il était correct, puis est-ce qu'on s'emballe trop après deux matchs, puis est-ce que c'est trop vite. Ben, on l'a mis là, puis on a trippé. Puis sais-tu quoi? Pour moi, Hudson, c'est le premier depuis 15 ans que je trouve que c'est sûr, puis let's go, on y va, puis on se pose pas de questions. Là.
Parce même que, pas d'hésitation. Ah oui, il est dynamique, c'est incroyable.
Ah non. On dirait qu'on vient toujours à Ryan Poehling. C'est ça notre crainte à Montréal. On se dit, ouais, mais il a marqué 4 buts le premier match, puis là, après ça, c'était pas pareil. Mais Ryan Poehling, c'était pas ça son rôle. Tu sais, je pense que c'est, vite, là, c'est environ 77 points en 100 matchs pour Poehling, NCAA, puis Hudson, c'est 97 en 70 environ. Tu sais, c'est pas les mêmes... C'était inespéré de la part là, de Poehling. Hudson, il est supposé de faire des points.
C'est un accident de parcours, Poehling, un heureux accident de parcours qui a changé les attentes. Mais pour les gens qui avaient suivi sa trajectoire de carrière, il n'y a rien qui annonçait ça. Ça arrive. Lars Eller a marqué 4 buts à Montréal. Tu sais, c'était pas un marqueur naturel. C'est des affaires qui arrivent. Mais je suis d'accord, les gars, c'est unanime. Fait que c'est pas sur Hudson qu'on va avoir une grosse chicane. Mais je trouve que c'est une question que je vais lancer tout de suite. Tu sais, on n'est pas obligé, puis les dirigeants sont pas obligés de répondre à ça là. Mais juste donner une idée de la situation défensive. Puis je vais mettre dans l'équation un des gars les plus populaires, vous allez me voir venir, chez le Canadien de Montréal. OK? Arber Jacky. J'ai rien de négatif à dire sur Arber, OK? Mais il joue où?
Ben ouais, c'est un rôle, parce que là, ça devient des rôles. Tu peux pas... Fais juste regarder l'erreur qu'on a faite à Ottawa. Tous nos défenseurs sont pareils. C'est tous des gars offensifs qui veulent se porter à l'attaque. Ça fonctionne pas. T'as besoin des gars qui bloquent des lancers. T'as besoin des gars qui donnent des mises en échec. T'as besoin des gars qui...
Mais donne-moi tes trois défenseurs à gauche dans le prochain. Le fun.
Ben, ouais, mais ça, Mario, pour moi, c'est pas important, là, le gauche-droite, là, par exemple. Là,
mais même gauche-droite. Trouve-moi une place.
Ben j'ai Hudson, ça c'est sûr.
Oui.
J'ai Gaulé.
Oui.
J'ai Jacky à gauche. J'ai Savard à droite. J'ai Maillot à droite. J'essaie de penser qui
me change Madison.
Puis Madison.
Matheson, il est là. T'sais, c'est ça. Gaulé va jouer à droite. Puis on l'a vu à droite une couple de fois cette année.
OK. Savard. Maillot, il joue pas, lui?
Ben oui, je l'ai mis.
OK, tu l'as mis. OK. Fait que Maillot, Savard à droite.
Mais mettons
Maillot, Savard puis Goulet à droite, puis ça fait Hudson, Matheson,
Jacky.
Fait que là t'as okay. Strubel qui joue pas.
Je suis capable de vivre avec. Harris
qui joue. Ok, pour l'an prochain, j'ai pas de trouble avec ça moi non plus. Mais là, Ryan Backer va arriver après là.
Ouais. Ben c'est là que tu sais quand on parle qu'on a des beaux problèmes. Finalement, ben on en a des beaux pas à peu près.
Ça veut dire que mais oui. J'suis
content de pas être Kent Hughes.
Ta valeur marchande c'est Harris et Strubel donc.
Mais c'est pas l'affaire, c'est que si j'échange mon 7-8 selon mes critères,
t'auras pas grand chose.
J'aurai rien. T'sais. Moi, l'option que j'ai lancée, je sais qu'elle n'est pas adorée de tout le monde, mais c'est Mike Matheson.
Tu l'échangerais, tu l'envisagerais?
Ben, moi, Mario, c'est la meilleure saison. Je l'aime, il est Québécois, il vient d'ici, il parle de tout. J'aime tout de lui. Mais un défenseur qui fait le nombre de points que tu fais là, t'échanges ça, puis tu viens d'aller te chercher un gars de 23-24 ans. Top 6 en Ligue nationale.
qui t'emmène avec un deuxième solide, deuxième trio. Matheson, est-ce qu'il va faire ça année après année? Je le souhaite. Mais c'est la question que je me pose. Puis
t'attends-tu de voir si Hudson prend le contrôle du jeu de puissance avant ou tu fais ça pendant l'été?
Hudson, il est là.
Tu lui donnes le jeu de puissance,
Mike, c'est à toi? Ah, non, inquiète pas, premier tri... Non, moi j'ai... Il a mis deuxième en tir d'abordage hier. Là.
Non, j'ai posé une question.
Moi, je comprends le point à Guillaume, puis tantôt on a eu une discussion là-dessus, puis j'étais en désaccord. La seule chose pour moi, c'est que si je te disais que quelque part dans la Ligue nationale, t'as un défenseur pas trop âgé, qui est dans le top 10, qui a le même nombre de points que Darlene, qui est à 6-7 points de Fox à New York, 62 points, tu sais, c'est un Québécois, t'irais le chercher, là.
on
s'entend,
oui.
C'est comme, ouais. C'est mélangeant quand même comme situation, là, c'est pas simple, puis je comprends très bien la valeur pour les attaquants, puis on a beaucoup de monde. En même temps, j'ai besoin de la petite fenêtre pour voir Randbacker, Mayu, Hudson, voir jusqu'à où ils peuvent aller.
Ouais, mais t'as pas le choix pareil. Ta petite fenêtre, t'as pas le choix de leur donner. Tu sais, t'as pas le choix. Peu importe, si Randbacker, c'est un flop, faut que tu lui donnes la chance. Faut que tu le notes sur la glace, faut que tu l'essayes. Parce que c'est dans 2-3 ans qu'on va vouloir espérer une coupe cette année. Matheson va être 2-3 ans plus vieux. Si tu vas chercher un attaquant top 6 de 23 ans en ce moment, il va être à son prime 26-27 quand tu vas vouloir gagner la coupe. Matheson, après son contrat, va vouloir un contrat de quoi s'il continue à faire des points comme là, 7, 8, 9, 10, combien tu vas le payer? Tu sais, il y a beaucoup de questions à se remplir, puis je trouve que justement, Hudson, Mayu, Rinebacker, je peux ajouter Norlander peut-être, là, mais on a encore beaucoup de points d'interrogation que ça leur prend des minutes puis du temps de glace pour le faire.
Mais en même temps, c'est le gars, Matheson, à moins que je me trompe, c'est le gars à Kent Hughes, c'est un gars qui connaît bien, c'est un joueur qui a nommé assistant capitaine, il y avait un plan pour lui. Là.
Ah non, 100%.
Un plan qui réussit d'ailleurs, Maxime, un plan qui réussit dans le cas de Matheson. Il y en a qui disent, ouais, il fait bien des erreurs, Matheson. Ben oui, il est sur la glace 25-26 minutes par match, il a tout le temps.
Parce que
je crois qu'il est parfait, là.
Je veux me l'imaginer, Matheson, moi, deuxième paire de défenseurs qui joue 20 minutes, voir ce qui, tu sais, frais dispo, un moins grand rôle, affrontant le deuxième, troisième trio au lieu du premier trio, la première paire de défenseurs, deuxième avantage numérique. Tu sais, moi, ça s'appelle un luxe pour moi d'avoir ça comme deuxième.
S'il tombe à 40 points.
Mais c'est pas grave.
Tu vas te garder Hudson right back.
Moi, je regarde
te le faire, c'est 40 points.
Ouais, mais c'est pas les points comme il patine bien, il sort bien la rondelle, tu sais, dans une structure défensive pour l'aider puis le protéger, devient-il un atout intéressant? C'est un bon défenseur, là.
Moi, Guillaume, ton argument, tu le présentes bien. Je suis attentif, mais je te dirais, puis tu pourrais me convaincre peut-être à longue, mais je te dirais, je pense que tu peux jouer une
autre année. Je peux
jouer une autre année.
Je suis l'avocat du diable.
Moi, je tente les deux.
Je peux jouer une autre année en masse puis voir vraiment.
Moi, je pense que tu peux faire une autre année avec.
100%, je dis pas qu'on le fait là, mais à la question où est-ce qu'on s'en va,
oui.
Je pense qu'il faut quand même avoir cette discussion-là sur la table. Est-ce que c'est ce que je ferais? Je fais l'avocat du diable, je lance toutes les situations possibles, puis je trouve que celle-là, même si elle est plate, devient quand même plausible et intéressante. T'sais.
Moi, j'aimerais ça l'acquisition d'un vrai gars profil quatrième trio. C'est pas l'élément prioritaire, là, mais pour pas que ton aspect robustesse dépende juste de Jack High. Tu sais, j'aimerais 100%. Ça qu'il y ait de l'air. T'es d'accord avec ça, Max?
100%. Puis je te parle pas nécessairement de quelqu'un qui est comme Rampé à New York.
Non.
Quelqu'un qui joue au hockey, qui bloque des lancers, qui est spécialiste en désavantages numériques, mise en jeu peut-être. Ou
puis tu peux dropper mitaine, de temps en temps.
Puis de temps en temps, s'il se fâche, puis il y en a assez, il protège ses coéquipiers.
Tu sais, ça court pas les rues non plus, ce type de gars-là.
Non.
très intéressant. Les gars, on revient un petit peu sur le bilan du Canadien pour retour. Je trouve ça atroce, horrible. Les qualificatifs me manquent pour dire la façon dont Washington est entré en série alors que Philadelphie enlève son gardien de but. Ça a pas d'allure. On revient tout de suite avec Max et Guillaume.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Les gars, on reviendra sur le Canadien, mais hier, vous avez vu ça comme moi, les Red Wings de Détroit, ils n'en revenaient pas d'avoir créé l'égalité avec 3 secondes à faire dans le match, ça gardait leur espoir de faire les séries, sauf qu'en parallèle, presque au même moment, c'est une question de minutes, Philadelphie, eux autres, ils n'avaient pas le choix de gagner en temps réglementaire pour avancer. Fait que à égalité contre Washington, ils retirent leur gardien de but, Washington compte d'un filet désert. Mais il s'est avéré que Philadelphie était éliminé, peu importe ce qui se passait, parce que Détroit avait un point. Fait que Philadelphie a enlevé leur gardien pour rien. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là qui, à mon avis, est ridicule pour la Ligue nationale?
Ben, moi, je pense qu'il va falloir trouver des solutions pour plus que ça arrive, là. Hein, on parle de millions de dollars là, que ces équipes-là ont perdu, là. Tu te bats pendant 82 matchs, puis Puis tu sais, certains vont dire, ben c'est quoi, il y a 20 qui a gagné un match au mois de novembre. Je suis d'accord, mais c'est la beauté de la ligue, la parité, puis c'est pas tout le temps facile, puis le calendrier est pas facile. Mais d'arriver comme ça, puis Tortorella, on s'entend, là, c'était 3-4 minutes de différence. Là. Il y a à peu près 25 tableaux dans l'aréna que c'est écrit OT 4-4 Canadiens contre Détroit. Il savait très, très bien qu'est-ce qui arrivait. Je comprends même pas qu'il ait enlevé son gardien dans cette situation-là. Puis je trouve que la Ligue nationale doit
regarder... Il y avait-tu une vieille crotte contre Eisenman?
Je sais pas, mais il doit regarder quelque chose de vraiment très, très près, parce que pour moi, c'est gênant d'une ligue de cette qualité-là de se retrouver dans une situation comme ça. Faut trouver une solution, faut amener un plan, puis ça peut pas réarriver. Là.
Moi, Mario, j'aimerais ça voir un match. Par exemple, je vais donner un exemple. Ça va être tout un exemple, Mario. OK?
Patine, c'est deux bords?
Ouais, exact. Washington, Détroit, en ce moment, sont à 91 points. Les deux ont terminé leur saison. Tu sais, moi, j'aimerais ça voir un match entre ces deux équipes-là pour savoir qui entre en série. Tu sais, 91 points sont à égalité. Moi, pour moi, c'est pas important comment ils sont arrivés là. Match à la régulière, match en prolongation, en lancement. Ils ont 91 points, les deux équipes. Donc, tu sais, ça donne une marge de manœuvre, justement, pour pas qu'il y ait une équipe qui fasse comme les Flyers avec John Tortorella, qui enlève le gardien, puis que ça soit une entrée bizarre en série. Moi, ce serait simple. Ce soir, il y aurait un match Détroit ou demain, là, Détroit-Washington, puis ça serait le gagnant qui entre en série. Ils sont à égalité, 91 points, 91 points, donc pourquoi pas, puis on s'entend que les gens vont les regarder, ces matchs-là. Hein?
C'est une vraie joke pareil, hein? Écoute, il a trouvé toutes les façons d'attirer l'attention jusqu'au à dernière seconde de la saison régulière des Flyers, hein, avec cette décision-là. J'ai pas entendu ses explications à ce sujet-là.
Bon, il va dire qu'il savait pas, qu'il avait pas vu. Il va sortir sa cassette. Là, il va même dire, je réponds pas à ça.
Si on donnait 3 points par victoire en temps réglementaire, puis que, je sais pas, 2 points pour une victoire en prolongation, ça pourrait arriver qu'il y ait des égalités pareilles, là, puis t'as besoin d'un match.
Non, mais
non?
Ben, moi, je pense que l'option comme en Europe, moi, je trouve ça, pis c'est sûr que là, c'est changé ce qu'on fait depuis 100 ans dans la nationale. Mais je veux dire, une situation comme hier, pour moi, là, faut qu'il y ait quelque chose qui arrive. C'est inacceptable.
C'est quoi en Europe, pour les gens qui écoutent?
Ben, c'est t'as le classement, puis les équipes qui sont après, ben, ils font un petit derby, là, mettons, de 2-3 jours où t'as des matchs, puis après ça, il y en a un qui sort, puis il prend 8e place, ou même là...
Comme le play-in dans NBA, là.
Le fameux 4e house. Le 4e house, là, les deux équipes 4e house pourraient être avec les deux en dessous, puis tu fais un tournoi à 4. Ça dure 3 jours de plus. Là,
ben, tu sais, comme en ce moment, par exemple, Mario, là, dans l'Est, ça serait, t'aurais Tampa Bay, Washington, Détroit, Pittsburgh qui se battraient pour ces deux spots-là.
OK, OK.
Ouais, c'est ça.
Ben, moi, je suis pas fermé à ça, mais j'aime beaucoup la valeur que ça donne à la saison régulière, qu'il y en ait juste 8 qui entrent. Puis dans le fond, tu sais, on discute de ça juste à cause d'un cas très, très exceptionnel, là, comme hier. Mais je trouve que ça donne vraiment de la valeur à la saison régulière. Mais garde, je suis pas fermé à l'idée, puis peut-être ça va arriver. La NBA le fait déjà, puis ça semble bien fonctionner. Maintenant, les gars, l'espoir, donc, pour vous, le discours des dirigeants, des joueurs, des observateurs, c'est qu'on a l'impression qu'on l'a évoqué en début de conversation tout à l'heure. Vous avez l'impression que l'espoir repose vraiment sur du solide, là. C'est pas qu'on se fait vendre de l'espoir. C'est concret, là. Vous le voyez de façon claire que le Canadien, l'an prochain, lutte pour les séries, puis peut-être une chance d'y faire.
Moi, c'est concret, mais pas en attaque. Moi, en défensive, on est 7-T. Je pense qu'on a une belle petite brigade qui s'en vient, qui va être stable, qui va être le fun. Dans les filets, je pense qu'on a deux gardiens qui vont compétitionner, une compétition interne qui va être super saine, qui va être le fun à voir. Est-ce que ces deux gardiens, est-ce qu'il y en a vraiment un qui est un gardien numéro 1A qui va nous faire ça? Je pense que c'est deux gardiens qui peuvent nous emmener loin. Puis en attaque, je trouve qu'il nous manque vraiment de la profondeur. On a un beau premier trio, on a Kirby Duck qui s'en vient, New Hook, mais on a encore du bois mort qu'il faut enlever. Fait que je suis optimiste, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va réussir à faire cet été.
N'oublions pas que les probabilités sont qu'on va repêcher un attaquant cette année dans le top 7. Là.
Oui.
C'est, donc, pour moi, c'est les deux premiers trios. C'est supposé, en tout cas, si tu fais ton travail. Donc, là, ça serait Slavkovski, Suzuki, Caulfield, ou en tout cas, si ça reste comme ça, t'as Doc qui revient, New York, Allel, ou Doc Allel, puis t'as des joueurs d'hockey là, qui s'en viennent. Le premier choix cette année, pour moi, est supposé d'avoir le même impact qu'un Slavkovski, là. Tu sais, il y a des bons joueurs
peut-être dans le top 7. Peut-être pas à l'an 1, Maxime, ceci
non, non,
dit.
Non, 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 ouais, non, c'est pas ça que je veux dire, là, mais je veux dire, le potentiel du joueur qu'on va repêcher cette année, c'est supposé être ça si on fait nos devoirs. Là.
Ouais, ben, moi aussi, je m'attends à ça, puis on verra. Ils ont tellement de cartouches. C'est écrit dans le ciel, puis je pense qu'on pouvait lire entre les lignes. C'est pas de faire un échange pour un échange, parce que t'as pas de garantie de ce que tu cherches. Va-t-il être disponible? Mais c'est clair que eux autres, ils vont brasser les cartes cet été, là. Quand Martin Saint-Louis, je peux pas croire qu'on sera pas un club amélioré quand on va venir en septembre. Il y a bien, avez-vous le même sentiment?
Ben, t'as pu voir aujourd'hui que, tu sais, je me rappelle de Gorton qui disait, l'équipe, tu sais, ce que j'ai vu, c'est, ça m'a impressionné, là, cette année. Donc, on dirait que ça tire un petit peu plus vers, on a le goût de se laisser tenter d'aller chercher un joueur pour aider. Mais on a mentionné en même temps que jamais ce joueur-là va empêcher un jeune de se développer en ayant moins de temps de glace.
Fait que ça, t'aimes ça, entendre ça.
Oui.
Y a-t-il un âge maximum pour une signature que vous avez en tête, vous autres? C'est-tu bien important? C'est sûr que plus il est vieux, moins tu donnes une grande longueur de contrat. Là. Mais je veux dire, avez-vous des paramètres bien précis par rapport à ça ou n'importe qui peut aider l'équipe avec un contrat en conséquence selon son profil?
Ouais, mais ça devient toujours difficile quel type de joueur. Mais tu sais, je te dirais un gars de 35 ans, à moins vraiment que ça soit un grand leader qui va vraiment amener
Crosby, genre,
puis tu sais, changer la ligne du vestiaire là, c'est ok. Mais je veux dire, sinon 30 ans pour un 5 ans maximum là, moi ça serait vers ça que j'irais, c'est certain là, parce que plus que ça, tu t'enlèves du temps de glace à des jeunes qui vont avoir besoin de ce temps de glace là dans le prime. Un gars de 30 à 32, 33 peut être encore utile quand tu vas souhaiter être dans le range pour la coupe.
C'est ça, plus dans le fond, plus t'es vieux, moins d'années que tu donnes. Tu sais, c'est si quelqu'un est prêt à venir aider pour un an, parfait. Mais tu sais, il y a des joueurs intéressants là sur le marché cette année. Puis j'ai hâte de voir comment qu'on va regarder ça. Je pense à, si je me trompe pas, Genzel, il est pas signé. Est-ce qu'il va être tenté de retourner à Pittsburgh? Tu sais, c'est tous des joueurs qui fitent dans le style canadien qui est vitesse, relance. On veut jouer ce style de joueur-là. Tu sais, Lindholm à Vancouver, c'est un très bon joueur de centre. Il a 29 ans. Est-ce qu'on, tu sais, j'ai hâte de voir si pour eux, 29 ans, c'est trop vieux, mettons.
Est-ce que c'est de la pensée magique en terminant, les gars, que de considérer que le Canadien a été impliqué dans tellement de matchs où il y a eu un écart d'un but seulement, 44 cette année, avec, donc, 17 victoires, 11 défaites et 16 défaites en prolongation. Donc, 17 victoires et 27 défaites. 44 matchs d'un but. C'est-tu de la pensée magique que t'es 27 défaites, t'en gagnes la moitié, puis oups, abracadabra, t'es en série?
Ben, c'est pas une pensée magique dans le sens que c'est une statistique, là. T'sais, puis en prolongation, t'es supposé d'en gagner quand même certaines, là. Fait que c'est quand même des points qui ont été laissés sur la table qui étaient disponibles. Voyons ça de même.
OK. OK, Maxime, le mot de la fin.
Moi, je pense qu'on va encore dépendre de notre division. Tu sais, oui, on a un travail à faire à l'interne, mais si fort. Les Panthers, les Bruins, les Leafs, le Lightning, Détroit s'améliore, Buffalo semble s'en aller dans une meilleure direction, puis Ottawa se réveille, ben là, va falloir aller chercher des joueurs puis compétitionner avec ces équipes-là, on s'entend. Hein?
Les gars, vous êtes Lane Hudson, là, puis mettons, il téléphone à quelqu'un qui est dans la station spatiale, qui avait pas accès au match hier, puis vous racontez ce que vous avez vécu hier au Centre Bell, les applaudissements, là, vous dites quoi? C'est une gang de malades? Là,
je dirais, meilleur marché pour jouer au hockey, c'est aussi simple que ça.
C'est fou, Red, hein, ouais, pareil?
Exactement.
C'est la réponse,
c'est magnifique.
Ben, les gars, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. On s'en parle très bientôt, les boys.
Salut Mario.
Salut Guillaume. Salut Maxime. C'était la Poche Bleue Radio aux amateurs de sport.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
Avec Stéphane White, bien le bonsoir, mon Stéphane, comment ça va?
Ça va bien, Mario, toi?
Ça va très bien. Steph, t'as participé à ça 18 années dans la Ligue nationale. Les meetings de fin de saison, là, c'est-tu des journées le fun ou des journées longues, pénibles? T'sais, comment tu vois ça?
Ah, c'est une longue journée. C'est une longue journée pour tout le monde. J'en ai fait quelques-unes, je peux te le dire, moi, Mario, autant à Chicago qu'à Montréal. Et puis, c'est quand même une journée importante pour l'équipe. Ça commence de bonne heure. Bien entendu, c'est long, surtout pour les joueurs. On va vous expliquer, les joueurs, c'est quoi le journée? Les joueurs, premièrement, à l'agenda, une rencontre avec l'entraîneur-chef. Les gardiens de but, moi, c'est avec moi qu'ils le faisaient. Mais le reste de l'équipe, c'est avec l'entraîneur-chef. Après ça, tu as une réunion avec le personnel médical. Faut que tu passes un examen de sortie, un examen si t'as des blessures, mais il y a des joueurs qui peuvent pas retourner chez eux tout de suite, pour pas qu'ils continuent sur le traitement à Montréal, parce que le personnel médical veut superviser ces traitements-là. Donc, t'as l'examen médical. Après ça, t'as la rencontre avec ton préparateur physique de l'équipe, le préparateur physique qui a déjà, depuis un mois, travaillé sur des plans d'entraînement pour chacun des joueurs, des plans d'entraînement individuels. Après ça, les joueurs, on a une autre rencontre avec le gars d'équipement, parce que les joueurs vont partir avec l'équipement. Le gars d'équipement va dire, OK, t'as besoin de combien de bâtons, c'est quoi que t'as besoin pour l'été, c'est quoi qu'on commande pour l'année prochaine, etc. T'as la fameuse rencontre avec les médias. Et après ça, t'as les signatures. T'as à peu près, je sais pas combien, de centaines d'items à signer pour des œuvres de charité, principalement pour la Fondation du Canadien. Tu vides ton casier et après ça, quand tout ça est fini, ben, tu vas avoir le souper d'équipe. Donc, c'est une journée qui est très, très, très chargée pour les joueurs.
Puis traditionnellement, le soir du dernier match, les gars ont un petit party ou se gardent du jus pour aujourd'hui, le genre pour le souper d'équipe?
Ouais, souvent, ils sortent après le dernier match et puis le lendemain, mais les gars arrivent un petit peu des fois moins en forme qu'une journée régulière pour être bien en
main. Oui, ça se voit dans un petit point de presse d'ailleurs, là, sans faire de presser l'intention.
C'est certain, les gars vont prendre une bière ensemble, puis écoute, c'est comme le...
Comme une ligue de garage.
Exactement. Mais ce qui est le plus intéressant de cette fameuse journée-là, bien entendu, c'est des rencontres avec les entraîneurs. Et il y a des joueurs, je vais te le dire, là, Mario, il y a des joueurs, ça dure 5 minutes. C'est pas long. Des styles Colin White. On sait, tout le monde sait qu'il reviendra pas. Lui le sait, l'équipe le sait. Donc, c'est comme, ben merci beaucoup de tes services, puis je te souhaite bonne chance dans l'avenir. Donc, ce genre de joueur-là, c'est pas long. Mais il y a des joueurs que c'est beaucoup plus long. Et spécialement pour... De quoi qu'on jase? On jase de... Surtout que t'es leader, on va parler de... OK, premièrement, ta saison. Comment tu as trouvé que ça a été? Puis après ça, le joueur dit comment il pense que ça a été. Le coach, il dit, OK, moi, j'ai vu ça. Je pense qu'en gros, ça a été bon, mais il y aurait ça pour travailler. On va demander au joueur, qu'est-ce que tu penses de notre équipe? Si t'es le gérant général, c'est quoi qui manque? Y a-t-il des joueurs qui ne fêtent pas ici? Donc, c'est beaucoup de choses qui vont rester à l'interne. Et puis...
C'est le temps de vider ton sac, là. Ça se parle pendant l'année, mais ça, c'est une réunion un petit peu spéciale, parce que le monde s'en va en vacances, on est plus lousse de dire les vraies affaires, peut-être?
Ah, il faut. Et puis, il faut. Puis, tes leaders, ils se doivent de dire les vraies affaires. Dire, écoute, il nous manque ça. Il y a telle affaire qu'on n'a pas aimé. On manque peut-être de toughness. On manque un petit peu de si. On manque de profondeur à telle position. Il y a des joueurs qui vont dire, OK, tu sais, je veux dire, il y en a un, il ne sait pas, là. Il me semble qu'il serait temps que, pour le bien de tout le monde, qu'il change d'air. Ça se dit, ça, ces choses-là. Donc, surtout tes vétérans que tu sais qui sont là à long terme. Les Suzuki, les Matheson, ce genre, les Savard. C'est avec ces joueurs-là que tu vas passer beaucoup, beaucoup de temps. Un autre gars que ça, le meeting devrait être long aujourd'hui, c'est Josh Anderson. Faut se demander c'est quoi qui s'est passé. C'est comment qu'on va faire pour régler ton problème. Qu'est-ce que tu vas faire cet été de différent?
Ben, Stéphane, je t'arrête justement exactement là, juste pour intégrer dans notre conversation, parce que j'ai cru bon sortir un extrait d'Anderson en disant que c'était peut-être le maillon le plus faible. On dit que t'es aussi fort que ton maillon le plus faible. Pour nous dire dans quel état d'esprit il quittait à la question après avoir parlé d'avoir mal canalisé ses frustrations, parce qu'il passait la moitié de l'année à être frustré, puis il l'a peut-être pas bien géré, fait qu'il dit qu'il doit travailler là-dessus sur bien des aspects qu'à avoir un gros été au gym. Et à la question sur Martin Saint-Louis, voici la réponse.
You know, I have a lot of respect for Marty as a head coach. You know, especially you know, for myself that I struggled all year long. You know, he stuck with me and still believed in me and still does. So, you know, that means a lot as a player. And you know, I owe it not only to him, but to my teammates, to this organization, to come back even stronger next year and produce. And at the end of the day, be the player that I know I could be.
Je respecte énormément Martin Saint-Louis. He stuck with me. Donc, il m'a pas abandonné. Il a toujours cru en moi. Il croit encore en moi. Donc, on peut croire que le message a été renouvelé récemment. Tu sais, il dit, je lui dois à lui et à mes coéquipiers, tu sais, d'essayer de redevenir puis de faire tout pour redevenir le joueur que je pense que je suis. On verra si, en tout cas, s'il doit s'ajuster à ce qui est comme joueur. Mais qu'est-ce que ça te dit, cet extrait-là? Moi, ça m'en dit quand même beaucoup sur l'ambiance qui règne dans l'équipe. Ça semblait sincère parce que ce gars-là a l'air éteint. Il avait encerclé la date du dernier match parce qu'il avait hâte que ça finisse parce que c'était une année misérable pour lui.
Aucun doute. C'est le joueur chez le Canadien qui avait le plus hâte que cette saison-là finisse et avec raison. Écoute, je suis content de voir que l'organisation ne donne pas sur lui. Et puis Josh Anderson, la même chose. Je pense qu'il reconnaît, premièrement, il reconnaît qu'il y a eu une année misérable. Et puis il a dû avoir une très, très bonne réunion avec Martin Saint-Louis aujourd'hui. Ça devait être une réunion qui était longue, mais on est en mode solution. Et ça, c'est important parce qu'il faut pas oublier une affaire. Josh Anderson, OK, il reste 3 ans à 5.5. On est pris avec ça, là. C'est certain, on est pris avec. Il n'y a pas de question de racheter de contrat. Kent Hughes a été clair là-dessus aujourd'hui. Donc, Josh Anderson va être de retour. À partir de là, faut tout faire pour qu'il réussisse. OK, c'est quoi qu'on va faire? C'est comment qu'on peut t'aider? Quelle sorte d'été tu vas passer? C'est quoi que tu veux changer? C'est comment qu'on peut t'aider? Et puis, Josh Anderson, pour moi, il y a deux choses. Premièrement, cette année, la confiance. Zéro. Zéro comme une barre.
À terre. Ah oh, oui.
Zéro confiance. Il a eu des chances de marquer incroyables près du filet, manque le filet. Ça, là, c'est comme zéro confiance. Donc, l'année prochaine, juste de revenir dans un nouvel état d'esprit, d'avoir pris l'été pour se ressourcer, ça, là, ça va y faire le plus gros bien. Autre chose, Josh Manderson, les gars, là, c'est seulement 29 ans. Il n'est pas rendu à 34, 35, 36. 29 ans, il y a encore du bon hockey dans ce gars-là. Josh Anderson, c'est un gros bonhomme. Josh Anderson patine encore très bien. Josh Anderson, avec la confiance, il a tout un lancé. Et Josh Anderson, c'est un bon gars dans la chambre. Les gars l'aiment. Et puis, tout ça pour dire qu'ils ont tout intérêt de tout faire pour que ce gars-là regagne sa confiance. Parce qu'il reste du hockey dans ce gars-là.
C'est bon ce que tu nous dis. Donc, toi, tu as eu le temps de le voir de l'intérieur. Donc, un gars apprécié. Puis, tu sais, il peut avoir une source d'inspiration pas très loin de lui. On sait que c'est un bon ami de Jonathan Drouin qui a eu une année rebound ou une année où il a rebondi littéralement. En tout cas, mais tu le voyais même en regardant la vidéo de ses réponses aujourd'hui que, oh boy, tu sais, t'as tout dit. T'as tout dit sur lui. Voilà. Alors, autre chose, Stéphane, sur le bilan de cette équipe-là ou sur ce qui te frappe là par rapport. En tout cas, je sais pas si tu trouves ça surréaliste, il y a des gens qui n'en reviennent pas de voir qu'il y a tellement de positivisme pour une équipe où les mathématiques ou les chiffres n'indiquent pas qu'il y a lieu d'en avoir tant que ça. Fait qu'il faut regarder ailleurs. Tu partages-tu cet enthousiasme-là par rapport à l'avenir immédiat?
Moi, oui. Premièrement, là, oui, je trouve qu'on a beaucoup de... on a beaucoup de gens heureux alentour de cette équipe-là et de partisans heureux alentour de cette équipe-là. Mais faut pas oublier qu'ils sont 27e, peut-être 28 cette année, selon les résultats d'asseoir. Ils vont peut-être être 27e ou 28 ou de la Ligue. Et c'est une équipe qui a un différentiel de moins 53. Et c'est une équipe qui a dans les buts contre, les buts pour, l'avantage numérique, le désavantage numérique, les lancers pour, les lancers contre, sont toutes entre 26 et 30 dans la Ligue. Donc, collectivement, c'est une année très, très difficile. Mais ce qui me saute aux yeux, c'est que tu regardes tous les joueurs de l'équipe. J'ai tous les joueurs devant moi et il y a seulement 3 joueurs que moi, je peux dire, ça a été des grosses déceptions. Seulement 3 joueurs. Donc, c'est qui est, pour moi, Josh Anderson, on vient d'en parler. Raphaël Harvey-Pinard, c'était une grosse déception, même si je donne un Mulligan.
Pour sa blessure, puis il va travailler fort cet été, mais t'as raison.
Et l'autre déception... Oui, et l'autre déception, c'est
Ilonen,
pour moi, a eu sa chance, la chance de sa vie. Il a passé l'année à Montréal, il n'a rien démontré. pour moi, c'est bye-bye. Mais les autres, là, il n'y a pas personne qui m'a déçu. Il y en a qui ont surpris. Stavskarski m'a surpris dans la mesure où qu'on savait qu'il y avait beaucoup de talent. Mais les Montembeau, les Primo, les Matheson, les Goulet, les Suzuki, même Caulfield, qui n'a pas marqué le nombre de buts qu'on espérait, mais a quand même fini très fort et amélioré d'autres choses. Moi, là, j'ai pas de déception dans cette équipe-là. Brandon Gallagher, je m'excuse, mais il a quand même marqué 16 buts. Un gars qu'on disait qu'il avait plus de gaz dans le tank. Un Joel Armia qui a eu une très bonne deuxième moitié de saison, malgré le fait qu'on l'a envoyé dans les mineurs. Mais tout ça pour dire que j'ai pas vraiment de déception. Donc, c'est drôle de voir que, collectivement, cette équipe-là, les chiffres sont très, très, très peu reluisants. Il n'y a pas grand-chose à se réjouir de leurs chiffres. Mais que individuellement, le Canadien a eu une bonne saison.
Intéressant. Steph, je t'arrête là-dessus. Juste parce que je veux faire une pause pour nous garder du temps au retour, tu me permets. Quelques messages, puis je te laisse poursuivre la phrase que tu es sur le bord d'avoir prononcée. Et puis, je veux te parler un peu des gardiens, lui, évidemment, pour finir.
Les amateurs de sport. L'émission de sport numéro 1. Jusqu'à minuit, vous écoutez Mario Langlois.
Bon, un petit blitz de questions éclair, Stéphane. Peut-être pas à grand développement, mais je vais t'en poser une coupe. Je vais garder les séries l'an prochain comme dessert. As-tu l'impression que, premièrement, Lane Nothun va-t-il jouer à Montréal en début de saison prochaine? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Oh, oui, j'en ai pensé qu'il est incroyable. Il m'a tellement impressionné. Un talent spécial. Mais notre problème l'année prochaine, en début de saison, c'est un gars comme Barron. Barron, il est sur le bord de faire l'équipe, mais il faut qu'on l'envoie au ballottage. Ben, d'après moi, on peut commencer parce que sans l'avoir au ballottage, il est parti. Ça, c'est clair et net.
Oui.
Donc, moi, je voudrais commencer à Montréal, le montrer un petit peu en espérant qu'il y ait un bon début de saison. Et là, on l'échange. À partir de là, tu vas chercher, tu ramènes Hudson à Montréal pour le reste de la saison. J'ai aucun problème parce que Lane Hudson joue un mois à Laval, ça va juste être bon pour lui, mais c'est clair et net que ce gars-là va jouer à Montréal l'année prochaine.
Si ça avait été un match où le Canadien devait gagner hier pour faire les séries, mettons qu'on comme un peu Détroit, la situation que Détroit vivait, je suis pas sûr que c'est Caden qui aurait été devant le filet, mais hier, c'est lui qui était là. Puis on aurait perdu, on l'aurait pas trouvé bien fort. Mais je me sers au-delà de ça, c'est pas ça qui marque sa saison. Est-ce que la position la plus faible dans la Ligue nationale est devenue la position de gardien de but?
Oui, mon juste oui. Oui, oui, oui. C'est incroyable comment que le nombre de gardiens de but. On a moins de gardiens de but dominants qu'il y a de cette saison que les dernières saisons. Et la preuve, écoute, Philadelphie, on a jamais su c'était qui vraiment notre gardien de but après la perte de Carter Hart. Détroit, c'est la même chose. Pittsburgh, c'est la même chose. Washington, c'est la même chose. Les Islanders, on a jonglé entre Barlamov et Sorokin. Et il y a tellement d'équipes qui jonglent avec les gardiens de but. T'as déjà quelques équipes, et ça, on pourra revenir plus tard dans la semaine, mais non. T'as déjà quelques équipes qui commencent les séries, puis on sait pas vraiment avec qui.
Comme quoi, les gens qui regardent notre duo de gardiens puis qui trouvent que c'est pas un duo de gardiens pour faire les séries, c'est que c'est pas comme s'il y avait bien des équipes qui étaient super nantis à cette position-là. Autrement dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ou en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Il faut peut-être en prendre soin sans s'empêcher de s'améliorer là. Mais bref, mais parlant de séries, partages-tu l'espoir que les Canadiens puissent faire les séries la saison prochaine, Stéphane?
Mais quand Martin Saint-Louis a parlé d'être dans le mix l'année prochaine, qu'il croyait qu'on pourrait être dans le mix, et puis d'après moi, la plupart des joueurs y croient aussi parce que les joueurs en parlent, et parce que Martin en parle et que les joueurs en parlent, de même la direction, qui ont quasiment pas le choix d'embarquer dans le bateau, dire écoute, nous autres tous, on pense qu'on peut faire les séries, et moi, je suis d'accord, et m'a dit les raisons. On est arrivé à 15 points. Avec 76 points, là, il manquait 15 points pour les séries cette année. Washington est rentré avec 91 points. Donc, 15 points de plus que le Canadien. Ça veut dire, comment que le Canadien va ramasser 15 points de plus l'année prochaine comparativement à cette année? Comment? Pour moi, c'est simple. Premièrement,
les buts contre, les buts pour, l'avantage numérique, le désavantage numérique, le nombre de tirs accordés et le nombre de tirs pour, ça peut juste être meilleur que cette année, parce qu'on est tous 26e et plus dans la ligue. Ça, là, ça peut juste être meilleur dans toutes les stats. Autre chose, si tu as Kirby Dak, mais tu vas avoir une deuxième ligne, on va avoir un semblant de deuxième ligne, ce qu'on n'a pas eu de la saison. Juste ça, pour moi, c'est des victoires de plus. Et l'autre raison, Jake Allen a eu une saison très difficile. Ça n'a pas été de Jake. Probablement, si on aurait eu un ménage à deux, pour moi, c'est facilement 5 à 6 victoires de plus cette saison. Et direct là, c'est 12 points. Bon, pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que le Canadien peut être dans le mix. Et puis là, faites attention, je ne dis pas faire les séries, mais lutter comme pour faire les séries. Puis c'est quoi le mix? C'est exactement ce que les Islanders ont été cette année, Washington a été cette année, Pittsburgh, Détroit, Philadelphie et Buffalo. Eux ont été dans le mix jusqu'à la fin.
Exact. Et ben, c'est une analyse intéressante. Puis maintenant, t'as pas de garantie que tes éléments positifs vont tous être positifs l'an prochain. Puis je pense que l'exemple là-dessus, c'est Buffalo qui, l'an passé, est éliminé le dernier jour. Puis cette année, il était dans le mix, mais un peu une marche en dessous du vrai mix, tu sais, c'est fait que...
Ouais, exactement, mais dans le mix, c'est ce que Pittsburgh, Detroit, Philadelphie, oui. Washington et New York Islanders ont fait. Et le Canadien, s'il peut être là-dedans, mais ça va être une belle saison.
Stéphane, excellent, merci beaucoup. On te retrouve vendredi avec Dominique Paquette, Assassin de la Coupe, et Pierre Gervais. On va faire un pool de séries en direct à la radio. Prépare-toi, mon homme. À bientôt pour la tribune téléphonique.
Très intéressant, oui, mais...
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.